Camarade gamer, c'est Creepers.
Camarade méloman, c'est Rhône.
Et bienvenue dans la Beatsbox. Alors comme d'habitude, on est ravis d'être là. Je suis très content de rejoindre mon compère Rhône. J'espère que tu vas bien.
Ça va super bien et je suis content de reprendre le micro pour une nouvelle émission.
Donc après un versus d'anthologie entre Big N et Sega, aujourd'hui on a décidé de faire un sujet alors, qui est tout en nuances, en mélange. On va aller dans les contrastes aujourd'hui et je vais donc laisser la parole à mon camarade qui va vous présenter le sujet du jour.
Et oui, dans les jeux vidéo, ultra majoritairement, l'action est basée sur des affrontements plus ou moins violents et plus souvent plus que moins. On se bat, on tue, on fait la guerre et c'est une facette qu'on va mettre en avant aujourd'hui parce qu'on aime ça. Seulement voilà, il y a aussi des moments où on a besoin de se poser. Certains jeux choisissent d'ignorer la violence, mais même dans les titres les plus trash, il y a ces moments de calme, pendant lesquels on se sent pour une fois en sécurité, comme un havre de paix au milieu d'un torrent de violence. Ce sont ces deux extrêmes qui font le sujet d'aujourd'hui, guerre et paix.
Et pour introduire ce nouveau numéro, on va commencer dans le calme, dans la tendresse, dans les plaines d'Hyrule. Alors autant vous dire que ça me fait plaisir, puisque même Rhône arrive à dire quelque chose de bien à Zelda.
Eh oui, j'avoue, je fais amende honorable, je suis pas un gros fan de cette série, mais elle est vraiment belle cette musique.
Elle est vraiment super belle, on est bien, autant dire qu'on est bien, pour commencer cette émission sur la guerre et la paix. Donc là, vous l'avez compris, on est dans un havre de paix, c'est l'endroit où on rencontre les fées qui nous redonnent de l'énergie après un dur combat, ou avant justement de se régénérer, avant d'affronter un boss bien retors. Donc c'est Great Fairies Fountain Theme. Alors j'ai un peu triché parce que c'est pas forcément un thème dédié à un jeu. C'était pour les 25 ans de Zelda. C'était un sorti avec un pack à l'époque. Donc ils proposaient la bande originale avec, retravaillée de différents thèmes cultes de la série. Et donc voilà, forcément, quand on a travaillé ce thème avec Rhône, c'était une obligation. Il devait y avoir ce thème retravaillé en version symphonique. C'est juste incroyable, encore une fois. Voilà, t'es posé, t'es bien, t'es tranquille, et ça te rappelle plein de beaux souvenirs, et c'est vraiment l'endroit où tu te poses, et tu te dis, voilà, bon, je vais encore en chier un petit peu, je vais encore affronter pas mal de bestioles, mais là, pour l'instant, je profite, et je suis plutôt pas mal. Bon, j'espère que vous vous êtes bien reposé. Parce que maintenant, c'est parti pour l'action.
Amis de la Mega Drive, vous avez bien sûr reconnu Jinoog, connu aussi sous le nom de Wings of War. Alors c'est un jeu qui est sorti en 1991, ça nous rajeunit pas, ah et c'est un super shoot'em up dans lequel on contrôle un ange. Hein, un ange, c'est tout gentil, un ange.
C'est vrai.
Eh ben non, c'est un ange qui tire des tas de je sais pas de boulettes, de lasers, de tout ce que tu veux, et qui est bien décidé à tout défoncer sur son passage. Alors, cette musique a été composée par Noriyuki Iwadare, qui est une sommité dans le domaine, entre autres connue pour la série Grandia. Un jour, dans une émission, il y aura forcément un Grandia à un moment donné. Et ce qu'on vient d'entendre, je trouve que c'est la musique guerrière par excellence. Ça donne la rage, ça donne envie là de foncer les cheveux au vent, pour rappel qu'on est un ange, hein, pour exterminer quoi, sans pitié tous les adversaires qui peuvent se présenter. Donc vous avez compris, hein, on est bien dans la guerre.
Alors ces gars arrivent même à pervertir les anges, c'est quand même une sacrée bande de salopards.
Ah, tu t'en es parmi du Versus.
Ah non.
Allez, on continue sur notre petite alternance, hein, parce que c'est vrai que c'est fatigant la guerre, il faut se reposer à chaque fois. Et on va aller faire un petit tour au pays des elfes. Ça y est, c'est la 7e émission et enfin je réussis à passer un morceau d'un de mes jeux préférés de tous les temps, Shining Force 2. sorti en 1994 chez nous, et c'était un jeu de rôle, un tactical jeu de rôle que j'ai retourné dans tous les sens. J'adore ce jeu. Alors la petite scène qu'on vient d'entendre, c'est un passage qui intervient alors qu'on visite un village au milieu des bois, un village d'elfes. Et là on est en toute quiétude, on peut tranquillement se reposer, on sent qu'il n'y a aucun danger dans cet endroit-là, donc on peut faire des trucs tout à fait pacifiques comme acheter de nouvelles armes, acheter de nouvelles armures pour repartir bien sûr un petit peu plus tard casser des gueules.
D'ailleurs, c'est une particularité hein, des musiques généralement calmes dans les RPG, c'est que c'est souvent lié à un endroit, à une ville, où on est là justement pour faire ses petites emplettes et pour se poser entre deux, trois quêtes un petit peu plus retors, un petit peu plus hardcore.
Oui, voilà, c'est le repos du guerrier avant de repartir sur le champ de bataille. Alors cette musique, elle est composée par Motoaki Takenouchi, qui a beaucoup officié pour Sega. J'ai du mal à sortir de Sega, hein, t'as pas tort. Hein. Et dont la pièce maîtresse est sans doute la BO de ce Shining Force 2, parce que pratiquement toutes les musiques sont absolument superbes. Et c'est une musique qui a beaucoup inspiré et qui a donné lieu à des concerts symphoniques de très bonne tenue. Peut-être que je vous passerai une version symphonique. Tiens, d'ailleurs, je suis en train de le dire, je pense qu'au montage, pendant que je parle, je mettrai la version symphonique. Tiens.
Allez, très fort.
Oh, my cadeau. Donc, comme on disait, hein, le repos du guerrier, quoi. Mais le guerrier, au bout d'un moment, se reposer, ça suffit. Et il repart où ? Il repart à la baston.
Et de la baston, autant dire qu'on en a une tête à chier dans Super Probotector. Donc vous l'avez compris, s'il y a le mot Super avant Probotector, et c'est que c'était sur Super Nintendo. Donc c'est un jeu forcément de ma jeunesse, c'est le son du tout premier niveau. J'adore l'ambiance qui, le tout début de la chanson est très apocalyptique, quelque chose de pesant qui te fait comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe pas très bien sur Terre. Et donc c'est un jeu qui en mettait un petit peu plein la vue quand même à l'époque, avec des monstres complètement immenses qui prenaient la place de l'écran, on était obligé de se les bastonner. Et donc ça utilisait aussi un petit peu le mode 7, il y avait des niveaux qui étaient vus du dessus comme ça, avec différentes armes qui tiraient dans tous les sens. Donc c'est composé par Miki Higashino, Mizanori Adachi et Tapi Iwase. Alors Tapi Iwase d'ailleurs qui est assez connu pour avoir fait les musiques de Metal Gear Solid 1 sur la première PlayStation. Donc voilà, c'était obligé d'avoir Super Probotector avec la musique Ground Zero dans cette sélection. Et voilà, c'est fait. Bon, on laisse les robots de côté, on fait appel à nos amis les ninjas et on revient donc forcément dans le zen. Thank you. 1998, année de l'infiltration, et donc, vous l'avez compris, de ninja. Alors, Tenchu, voilà, les ninjas, on adore les ninjas ici. Il faudrait faire une émission spéciale ninja, je pense qu'il y a moyen de faire des trucs super cool, on se déguisera.
Ça, c'est une idée.
Personne ne le saura, parce que c'est une émission audio. Alors, Tenchu, ça fait partie de mes jeux préférés sur PlayStation, et pourtant, franchement, et on en parlait avec Ron en off, c'est un jeu qui est bourré de défauts, lui ne l'aime pas trop.
C'est vrai.
Ça l'a laissé un petit peu de marbre, et il est pas très beau. Il y a des petits défauts de manipulation, mais à l'époque, quand je découvrais l'infiltration, je trouvais que l'ambiance, justement, était hyper travaillée, et la bande-son de Noriyuki Asakura, pour moi, ça participe grandement à la réussite du jeu. Et d'ailleurs, c'était l'erreur du deuxième épisode, où il n'y avait quasiment pas de musique, et donc là, ça m'a complètement sorti du trip. Donc, j'ai même pas pu terminer, je crois, les deux premières missions, parce que ça m'a vraiment saoulé. Et donc là, on vient d'écouter Far Away, qui est la musique qui conclut Tenchu, qui a des dialogues en français absolument immondes. Tenchu, c'est vraiment nanar au niveau des dialogues, enfin bref. Mais donc c'est la musique qui conclut le jeu, et c'est une musique qui est complètement reposante, donc on s'est bastonné un petit peu tout le long du jeu en essayant de, le mieux possible de tuer les mecs par derrière avec des steel kills. C'est un petit peu l'apparition aussi des steel kills, c'était plutôt cool. Et donc cette musique, elle te repose, tu as fini ton jeu, tu as la manette dans les mains, et obligé, hein, comme la musique de Metal Gear d'ailleurs qui était chantée aussi, bah tu te laisses porter par la musique et tu découvres, tu laisses dérouler le générique et tu es plutôt bien. Voilà, tu as terminé ton jeu et tu es content de l'avoir terminé après avoir fait voilà une aventure plutôt sympa. Et petite anecdote sympathique aussi, donc pour ce jeu réalisé par le studio Acquire, c'est Shokudogi et son fils qui ont fait la motion capture. Et pourquoi c'est important pour moi? Tout simplement parce que c'est un mec qui a joué dans plein de films de ninja de la canon, et rien que pour ça, Tenchu, eh ben c'est beau. Allez, changement d'ambiance, on va dire salut à Chopin.
Chopin, oui, mais la guerre quand même. C'est la musique Leap the Precipice qu'on vient d'entendre, qui vient de Eternal Sonata, un jeu sorti en 2007 sur Xbox 360, avant d'arriver un petit peu plus tard sur une PS3 qui était à l'époque un peu en manque de jeux de rôle. Alors c'est un jeu de rôle assez bizarre, ce Eternal Sonata, puisqu'il tourne autour de la mort de Frédéric Chopin, avec même des intermèdes culturels pendant le jeu, où on pose juste la manette et où on apprend que, ben oui, on tombait malade à cette époque, et que,
ça arrive.
Et que même malade, il continuait de composer, que c'était pas facile, etc. Mais il se trouve que c'était un chouette jeu, qui était hyper original, avec un style graphique aussi très intéressant, avec, il faut bien le reconnaître, et tous ceux qui ont joué le savent, une fin épouvantable, par contre, une espèce de cinématique qui n'en finit pas, qui était chiante comme la pluie. Bon, ok, la fin n'était pas géniale, mais le reste du jeu était quand même cool. Alors, dans ce jeu, les musiques sont de Chopin, évidemment, hein, mais aussi de Motoi Sakuraba, qui est un auteur ultra prolifique ayant débuté sur les Baton Kaitos, et qui a d'ailleurs suivi la série pendant très longtemps. Et le thème qu'on vient d'entendre, on l'entend vraiment beaucoup pendant le jeu, puisque c'est celui qu'il y a pendant les combats. Et donc, comme dans tous les jeux de rôle, des combats, il y en a beaucoup. Alors, je sais pas vous, mais moi, d'ordinaire, même les musiques bien, à force de les entendre, ça me fatigue dans les combats. Et ben, celle-là, non. Étrangement, moi, je pouvais l'entendre pendant des heures, et c'est effectivement pendant des heures que ça se passe. Et ça a toujours bien marché, je la trouve super épique. Je trouve qu'elle donne envie de faire mouliner son bâton pour aller taper sur le champignon qui est en face ou n'importe quel ennemi qui passe. Voilà, je trouve que ça fonctionne, peut-être d'autant plus quand on l'entend qu'une fois, hein, comme c'est le cas dans la Beatbox, mais en tout cas, je trouvais qu'elle avait parfaitement sa place ici. Allez, retour au calme, toujours avec un jeu d'aventure très connu sur Xbox. Vous avez bien entendu reconnu la musique de Fable sortie en 2004 sur Xbox, hein, des studios Lionheads. Alors voilà, rest in peace, ouais. Lionheads, hein, c'est terminé.
Big up.
Voilà, big up Lionheads pour votre boulot, même si on a cru comprendre que c'était un peu le bordel sur la fin et que c'est peut-être un peu pour ça que vous êtes plus là.
Ah bon, on peut chier sur Molineux, mais je pense que sans lui, c'était fini. Hein.
Voilà, c'est peut-être ça quand même. Moi, je l'aime bien, ce type-là, il m'a toujours fait rire.
Bah, bien sûr,
il faut des mecs. Exactement. Ouais. Alors, la musique qu'on vient d'entendre, elle est composée par Russell Shaw, qui est rattaché à de très nombreux jeux de Molineux, justement. Et moi, je l'adore, cette musique. Elle intervient quand on arrive dans le Temple de la Lumière, donc c'est le titre du morceau, hein, Temple of Light. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais dans tous les jeux d'aventure, il y a toujours un temple.
Ouais, il y a toujours un temple of quelque chose.
T'as toujours un temple. Alors, c'est le temple des anciens, ou là, c'est le temple de la lumière. C'est... Et dans ces temples, à chaque fois, c'est le calme qui domine, la sagesse. Et bon, bien sûr, Fable ne fait pas exception. Et le Temple of Light, c'est exactement ça. Et moi, je trouve que quand on écoute cette musique, eh ben, on se sent apaisé. On se sent bien, c'est comme s'il y avait une parenthèse dans l'aventure. Voilà, on recharge les batteries, on profite de la sagesse des anciens qui vient envahir notre corps. Et quand on ressort du temple, eh bien on n'a plus qu'une envie, c'est retourner à la baston. Et pour le jeu qui va suivre, au niveau baston, je crois qu'on peut dire qu'on va être servi.
Et ça, de la baston, encore une fois, je vais vous en donner, tout simplement, puisqu'on a un jeu qui mélange Shinji Mikami, Platinum Games, et donc forcément, ça fait un bide. Vanquish, c'était The Final Battle, donc c'est une composition de Irina Niwa, Masufumi Kada et Masukazu Shigimori. Voilà, c'est, à chaque fois, ils sont je sais pas combien à faire les bandes originales, je me complètement. En tout cas, tout ça pour dire que Vanquish, c'était la fête. Quand c'est sorti, il y avait des bandes d'annonces de ouf. On savait que ça allait être un jeu de malade. Alors, je sais plus s'il est sorti avant ou après Bayonetta. Là, je sais plus vraiment.
Ouais, je dirais après, mais je suis pas sûr de voir mon coup non plus.
Ils ont un point commun, c'est que ça a pas trop marché. De toute façon, c'était deux jeux qui explosaient tous les standards. Ils faisaient revenir le beat'em all, ils faisaient revenir les shoots. Parce que Vanquish, c'est un peu le mélange entre du shoot et du beat'em all. C'est une espèce de bioman surpuissant avec des propulseurs partout sur le corps qui glissent dans tous les sens, qui mélangent les ralentis, les retours en arrière, etc. Donc c'est un savoir-faire de ouf. C'était une grosse claque. Franchement, techniquement, ça tuait. C'était ultra fluide. On affrontait des monstres qui étaient ultra badass. le mec il en faisait des tétrachiers, c'était un peu des références aussi à Snake Plissken, il fumait des clopes tranquilles avant d'affronter des boss complètement énormes. Donc voilà, Vanquish, je ne peux que conseiller parce que ça reste vraiment un monument de l'époque Xbox 360, PlayStation 3. Il se trouve dans les bacs à soldes depuis sa sortie, hein, je pense. Hein. Dès le lendemain, il était à 10 balles dans les bacs à soldes. Tout le monde s'est un peu foutu de sa gueule parce qu'il était assez court et je vois pas en quoi c'est un problème pour un jeu qui vise l'arcade et le scoring. En tout cas, voilà, si vous voulez quelque chose qui décoiffe avec une bande son de ouf, bah moi je vous conseille Vanquish. Mais là, on transpire dans un costume comme ça, un petit peu trop lourd pour nous, qu'il va bien falloir se reposer un petit peu. Et pour ça, on va rejoindre un jeu qui a un petit design qui me fait penser à un mec qui s'appelle Sangoku.
On vient d'écouter un morceau tranquille qui s'appelle The Calm Waterside et qui vient de Blue Dragon, un jeu de rôle sorti en 2007 sur 360, qui venait du studio Mistwalker, formé pour l'occasion, regroupement d'énormément de talents avec des gens qui bossaient sur les Final Fantasy, donc le designer de Sangoku, dont le nom m'échappe bien entendu.
Akira Toriyama.
Merci, Akira Toriyama.
À votre service. Voilà.
Et c'est l'occasion de se rappeler que, aussi étonnant que ça puisse paraître, ben à cette époque, Microsoft mettait le paquet. Il voulait encore le draguer le Japon à ce moment-là. Et il mettait le paquet sur les jeux de rôle, et c'était vraiment LA console des jeux de rôle japonais. On l'a un petit peu oublié, mais il y a eu plusieurs titres qui étaient vraiment excellents. Et ce Blue Dragon, qui bon, n'a pas inventé l'eau tiède, il faut le reconnaître, était quand même vraiment un jeu très très sympa, dont la musique a été composée par Nobuo Uematsu, qui est un habitué des Final Fantasy, et cette compo de Blue Dragon est du niveau de celle des Final Fantasy.
Magnifique, magnifique.
Alors, l'ensemble de la BO est vraiment remarquable. Si vous avez un moment, posez une oreille dessus, vous risquez d'être surpris. C'est vraiment excellent. Donc, sur ce morceau, Calm Waterside, bah, c'est exactement ce qu'on ressent en l'écoutant. Pour le coup, c'est un vrai repos, la vraie pause. Et j'ajouterais même qu'on décèle peut-être une petite pointe de nostalgie ou de tristesse dans ce morceau. Alors j'y ai joué il y a très longtemps, donc je me rappelle plus avec exactitude à quel moment ça intervient dans le jeu. Mais bon, il y a fort à parier que c'était suite à une perte ou quelque chose de ce goût-là. En tout cas, c'est ultra efficace, c'est juste beau. Donc en plein dans le sujet de cette beatbox, quoi, où on respecte les bons sentiments. Et je crois que pour le morceau qui arrive, bah, les bons sentiments, le bon goût, pardonnez-moi cet excès de langage, mais vous pouvez vous les foutre au cul.
Mais là, je sais ce que tu te dis, camarade auditeur, non d'un clown démoniaque, mais c'est du twisted metal. Non, je déconne, je pense qu'il n'y a absolument personne qui connaît ou qui reconnaîtrait même la musique de twisted metal. Et pourtant, j'aime cette franchise. Allez pas me demander pourquoi, c'est peut-être mon côté déviant, encore une fois, mon côté canon. En tout cas, j'ai réussi à placer, même deux fois, parce que dans le montage, au tout début, vous avez eu Twisted Metal avec la musique de la version PlayStation 1 de Twisted Metal World Tour, un dérivé de Frère Jacques en version Heavy Metal. Et oui, le
faut
bon
le faire quand même.
Absolument, le bon goût. C'est, voilà, je pirate cette émission. Bizarrement, ils font l'effort sur Twisted Metal Black qu'on vient d'écouter dans ces Minion Stadium. C'est Mike Regan qui régale. Alors le mec, il a aussi fait God of War, hein, donc voilà, il sait faire des musiques épiques, il sait quand même emballer les choses, et il nous livre une composition originale pour un jeu dont la base est quand même juste de se défoncer avec des voitures et des requêtes.
C'est ça.
Et ce qui est fou avec Twisted Metal, c'est que moi, ça a marché dès le début. Alors, vraiment, j'ai pas eu le premier, mais j'ai eu donc le 2, comme je vous le disais, et donc on était dans une bouillie de pixels. J'y ai rejoué il y a pas longtemps, j'étais assez fou pour l'acheter sur PS3 pour y jouer sur une télé HD, donc autant vous dire que j'ai perdu 2/10 à chaque œil. Mais c'était d'une folie, et ils ont même créé des personnages, même des personnages cultes, parce que le personnage de Sweet Tooth, qui est le clown emblématique de la série, bah entre guillemets c'est culte et ça fait partie du paysage PlayStation, et j'adore cette série. Alors je ne l'adore pas au point d'y jouer pendant 3 milliards d'heures en ligne, etc. Mais c'est une série qui m'attire à chaque fois parce que j'ai envie de découvrir ce qu'ils ont apporté. Et dans le dernier sur PS3, ils ont même fait des cinématiques avec des vrais acteurs. Alors c'est hyper Z. Mais Z du Z du Z. Hein. C'est-à-dire c'est vraiment le DTV roumain filmé de manière chelou avec des incrustes un petit peu chelou. Mais moi ça fait partie du plaisir. Donc là c'était la version PlayStation 2. Et donc c'était Twisted Metal Black, et je suis content, j'ai mis du Twisted Metal dans la Beatsbox, et je vous salue. Maintenant qu'on s'est un peu torché avec les concepts, on va aller marcher dans les prés. Thank you. On est bien. On est dans l'herbe, avec une brindille entre les dents, à contempler le ciel bleu et s'étonner des formes des quelques nuages qui passent par-ci par-là. Et là, oh ! Une pétale baladée par le vent. Je l'observe pendant qu'elle virevolte, aidée par le souffle de Mère Nature. Dans mes oreilles, pendant que j'admire ce spectacle du quotidien, Lazy Daydream, composé par Vincent Diamente. On est bien, on est dans l'herbe virtuelle de Flower, petit chef-d'œuvre de Genova Chen, et c'est rempli d'amour et d'espoir que je retourne embrasser la nature en attendant de nouvelles aventures.
Voilà Killer Instinct sur Xbox One. Alors je sais, j'en avais déjà parlé dans le spécial baston, mais que voulez-vous, j'adore les musiques de Mike Gordon. Alors cette fois c'est le morceau qui nous accueille sur le jeu que j'ai pris, j'ai fait dans la simplicité, et pour moi je trouve que cette musique elle est géniale, parce que c'est vraiment la musique qu'on a envie d'entendre quand on est... Avant d'arriver sur la scène de combat, qu'on est en train de faire craquer ses doigts, qu'on est en train de tourner son cou, hein, de faire 2-3 assouplissements, donner 2-3 coups dans un sac de frappe comme si on était Rocky, et qu'on est prêt déjà à aller balancer du bourre-pif avec les coups de guitare qui arrivent, et là c'est la baston qui démarre. Donc voilà, c'est un classique. C'est guerrier, c'est brutal, c'est violent, il fallait que ce soit là. Je l'ai déjà dit, je le redis, la BO de Killer Instinct, c'est juste une merveille.
Alors, puisqu'on en est à faire des courbettes à notre ami Mike Gordon, il fallait signaler quand même, parce que j'ai hésité à mettre quand même un autre morceau du bonhomme, parce que Doom vient de débarquer et Doom vaut carrément le détour. Et justement, Mike Gordon signe la BO de Doom, et un peu comme Killer Instinct, où il a repris le thème emblématique de la série, a réussi à le... dépoussiérer un bon coup, à donner un truc super épique et ultra efficace, et ben le mec il donne une patate à Doom, donc il reprend le thème déjà principal, pareil, on a à un moment on a la toute première partie du jeu avant le générique entre guillemets où t'as le titre qui apparaît, t'as la musique qui commence à monter en pression, pareil avec des grosses guitares mélangées avec des trucs un petit peu électro, ça tabasse dans tous les sens, et Doom c'est de la puissance brute, c'est un retour aux sources qui fait vraiment 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 du bien, et son travail participe énormément à l'ambiance du jeu. Et je peux vraiment qu'insister sur le fait que Doom est une putain de surprise qui revient à l'essentiel. Alors c'est dommage, il a été un petit peu éclipsé par la tornade Uncharted 4. Et je sais que ça parle pas forcément à beaucoup de joueurs, parce que c'est vraiment ceux qu'on jouait dans les années 90 que Doom va vraiment marquer les esprits. Mais putain, ça fait du bien de voir un jeu où t'as un vrai gameplay, qui fait plaisir à jouer, et qui est brut, mais qui est bien fait, quoi. Voilà. Jouez à Doom, faites-vous du bien, soulagez-vous. Faites des kills de malade, si vous avez passé une mauvaise journée, jouez à Doom, c'est juste la classe. Et encore une fois, Mike Gordon, super bon boulot, moi je l'ai découvert avec Killer Instinct. Et là, il appuie encore sur le truc, c'est de la boulette.
Par contre, Doom, on est d'accord, hein, c'est réservé pour les plus de 18 ans, hein, c'est quand même un truc bien mature, quoi. Donc là, on va juste s'adresser, hein, à des gens un petit peu plus jeunes. Et si on revenait à l'époque où on était adolescent ? l'air de rien, ce Life is Strange des petits français de Dontnod, le seul studio au monde dont le nom est un palindrome, a fait pas mal de bruit. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment moins, mais on a tous un avis là-dessus, et en tout cas, c'était frais.
Ouais.
Et c'est original. Il y a beaucoup de choses dedans, il y a des vrais thèmes qui sont abordés, et notamment l'adolescence, qui est abordée avec beaucoup de finesse. Et moi qui suis plus vraiment un adolescent, bah, je m'y suis retrouvé quand même, quoi. Comme quoi, finalement, ça atteignait pas mal son but. Et dans ce jeu, il y a notamment une ambiance musicale qui est très marquée.
Très folk.
Avec une BO qui mélange des chansons connues et très très bien choisies. Et de belles compos de Jonathan Morali, c'est ce qu'on vient d'entendre avec l'écran titre, à vrai dire. C'est celui-ci que je vous ai passé. Et c'est une musique qui nous emmène tout de suite dans cette espèce d'indolence de l'adolescence. Et en ce qui me concerne, c'est un des rares cas où je peux rester, quand je lance le jeu, plusieurs minutes sur le menu pour écouter la musique, pour me mettre dans le bain, où on est tranquille. Voilà, je suis bien avant d'appuyer sur Start, et il n'y a pas beaucoup de jeux qui font ça. En général, on appuie tout de suite sur Start pour attaquer la partie, ben pas dans Life is Strange en tout cas, pas pour moi. Et je voulais également souligner qu'il y a d'autres passages dans Life is Strange qui mettent encore l'accent sur la musique, où la fille qu'on joue s'assoit juste sur son lit ou sur une balançoire pour jouer de la guitare, tranquille, et ça devient comme une parenthèse dans la vie, un vrai moment de paix. Voilà, vous avez compris, j'aime beaucoup la musique de Life is Strange. On va retourner pour la guerre, et tout de suite je change ma voix, parce que là on va attaquer le morceau que je préfère de la sélection de Creepers.
Ça déchire et ça donne envie de tout péter en pilotant un gros navire. Alors, aussi étonnant que cela puisse paraître pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la musique de Ace Combat Assault Horizon. Donc voilà, moi je suis pas un habitué de la série, pourtant je connais depuis, c'était sur PlayStation 1 à l'époque. Et pourtant, à chaque fois que je joue un Ace Combat, je suis épaté par l'efficacité de la bande-son. Donc là, c'est Keep Alive de Keiki Kabayashi. Toujours du mal, hein, décidément, avec ces noms. Il y a un côté très hollywoodien. Il y a une pêche, mais énorme, dans ces morceaux. Et donc là, c'est les musiques qu'on a généralement dans les dogfights. Et donc là, bah, forcément, t'es dans ton avion, t'as envie de tout péter. T'as cette musique, vraiment, on dirait vraiment un gros film américain qui t'emballe tout ça, qui t'emporte un peu dans tous les sens. Et donc, c'est vraiment une grosse marque de fabrique de la série Ace Combat. C'est que non seulement c'est un jeu qui est très très arcade, et ça depuis très très longtemps, mais en plus, vous avez des musiques qui tuent. Et je suis toujours surpris de voir l'effort qui est fait dans les Ace Combat pour apporter une bande-son aussi dingue. Et il a raison, Rhône, c'est un des meilleurs morceaux de ma sélection. Voilà, et ça, c'est beau.
Et puis c'est autre chose que Take My Breath Away de Top Gun.
Oh putain, c'est vrai. Ouais, mais bon, ils auraient quand même pu mettre des matchs de volleyball avec des mecs huilés. Hein.
C'est vrai, ça manque un peu.
Allez, on passe du ciel à la mer. Alors c'est le moment de l'émission où je vais me faire des ennemis. Et oui, on adore ça ici. J'aime pas Echo le dauphin. Non, j'aime pas. Alors pas l'animal, hein. Personnellement, j'ai rien contre lui, les dauphins, c'est mignon, c'est choupi. Mais qu'est-ce que je m'emmerde quand je joue à ces jeux. Alors c'est pas compliqué. À part faire des petits sauts un peu dans tous les temps sur Mega Drive ou me perdre sur Dreamcast, et ben moi j'ai pas beaucoup de souvenirs, si ce n'est justement la musique. Donc là, on vient d'écouter la musique de fin, encore une fois, de Defender the Future, donc le jeu dans sa version Dreamcast, et c'est composé par Tim Follin, ou Follin, je ne sais pas comment on prononce son nom de famille, donc qui a chatouillé doucement et délicatement nos oreilles, et c'est effectivement hyper agréable. Donc c'est un morceau qui est assez euphorisant, qui conclut le jeu après des heures d'ennui, des tunnels d'eau, on fait des trucs chelous, on s'ennuie, mais j'ai peut-être la réponse. Voilà, il y a des substances que je ne prends pas.
Ouais, moi je pense que j'ai. Je pense qu'il y a une vraie explication avec les jeux Echo, et je crois que t'as utilisé un bon terme. La musique, elle est euphorisante, je dirais même elle est planante. Et je suis à peu près convaincu que les jeux Echo le Dauphin, alors déjà sur Mega Drive, mais encore plus sur Dreamcast, c'est des jeux qui sont faits pour les gens qui fument des pétards. Je suis absolument persuadé que même les concepteurs y ont forcément pensé, et ça doit tout de suite donner de la consistance à ce jeu. Il y a des petits bruits, il y a des musiques douces, on est dans l'eau, on se prend pour un dauphin.
On barbote.
Voilà, moi je crois que je vois vraiment pas d'autre explication à Echo que moi j'aime plutôt bien, même si je reconnais que on s'ennuie pas mal et puis que je crois pas que j'ai franchi le deuxième niveau, pour être tout à fait honnête.
Moi, je préfère quand même les requins bioniques de Blue Dragon, mais bon, c'est une autre école.
Ouais, c'est une autre école. Donc, on a fait Echo, on a bien plané, et là, on va passer maintenant, donc pour le coup, je fais mon auto-promo à la musique que je préfère de ma propre sélection, en tout cas pour la partie agressive.
Je m'aime beaucoup.
Vous avez reconnu la musique mythique de Command & Conquer, Alerte Rouge, et c'est un jeu que j'ai adoré. Qui est un spin-off dégénéré de la série Command & Conquer, qui était déjà une série assez étrange. Je sais pas si vous vous rappelez, alors c'est un RTS qui se trouve qu'il est vraiment très très bien. Comme STS, c'était Westwood qui faisait ça, si je dis pas de bêtises.
C'est ça.
Et quand je jouais à Command & Conquer, je me suis toujours posé la question, moi, est-ce que c'est une parodie ou est-ce que tous les intermèdes filmés sont juste mauvais ? Eh ben, Alerte Rouge apporte une réponse définitive, c'est assumé, c'est une parodie. Dans Alerte Rouge et dans une espèce de monde fantasmé où donc les rouges ont pris le pouvoir et où on va devoir les affronter, on a de nombreux intermèdes donc avec des acteurs qui surjouent tous plus les uns que les autres. Bon, manifestement ça les amuse beaucoup de faire ça. Bref, on va réussir à le citer pour la deuxième fois, mais ça fleure bon la canon, Alerte Rouge.
C'est beau.
Et ça, rien que pour ça, c'est excellent. Alors, il y a une autre raison hein, qui a fait aussi le succès de la série, c'est cette musique qu'on vient d'entendre de Frank Klepacki, qui se nomme Hell March. Alors, je crois que ça se prononce plutôt Hell March, hein, avec les bruits de bottes au début qui donnent bien le ton. On est là pour faire la guerre, les guitares prennent le relais de plus en plus fort, de plus en plus agressif. Ouais, je crois que le message qui ressort de cette musique, je pense vraiment que c'est tuer, c'est cool.
Et c'est vrai que c'est cool.
Allez, on va s'approcher un petit peu plus près du présent avec un jeu qui est sorti cette année et qui lui aussi a fait son petit effet. Depuis son annonce, avec ce développeur un peu emprunté et ému qui a fait le buzz un peu partout, Unravel, eh ben on en a pas mal parlé. Il faut dire que le jeu est esthétiquement magnifique et baigne dans une ambiance rare. Alors il n'y a pas vraiment d'histoire, il n'y a pas vraiment de danger quand on joue. C'est juste une balade nostalgique dans les souvenirs heureux d'une vieille dame. Donc c'est vrai que ça vend pas du rêve sur le papier. Tout le monde n'accroche pas à ce jeu qui propose des puzzles très simples, pas vraiment de difficultés. Moi, je dois dire que j'aime bien. J'y joue une fois de temps en temps. Je crois pas que c'est un jeu qu'il faut faire d'affilée, quoi. Et à chaque fois, je retrouve avec plaisir mon petit bonhomme, là, qui se balance sur ses fils. Je trouve ça joli. Voilà, c'est ça, joli. C'est le bon terme. Alors, les musiques sont de Henrik Oja et Frida Johansson. Et je trouve qu'ils retranscrivent tout à fait ça. En étant toute douce, mais en misant sur des belles mélodies qui restent en tête, avec beaucoup de musique aussi d'inspiration irlandaise, je dirais, à vue de nez, quoi. Voilà, en tout cas, je trouve que ça participe à l'ambiance, j'aime bien, les musiques sont très jolies, ça mérite d'être écouté, même si vous aimez pas le jeu, après tout, vous avez le droit, hein.
On a le droit de pas aimer les Vietnam. Ouais,
on est dans un pays libre hein, quand même. Faut pas déconner quoi. Voilà, donc je voulais terminer avec cette petite note de beauté. Avant, Avant du bruit et la brutalité la plus pure.
Colonel, tout pété.
C'était pas ma guerre.
C'était pas ma guerre, c'était pas mon jeu.
Imitation de merde. Alors forcément, quand un jeu de bourrin se mélange avec un film de bourrin, alors ça me titille, hein, ça me titille forcément. Donc c'était le thème en metal version de The Expendables.
Oh, ce titre.
Donc c'est un spin-off de The Expendables, le film. Et de Broforce, donc ce jeu qui réunit toutes les stars des films d'action. Alors un mélange des années 80, 90, 2000, puisqu'il y a donc Bromando, donc de Commando, le meilleur film du monde, on le rappelle. Vous avez Rambo, Robocop, vous avez Blade, vous avez Bro in Black, vous avez Chuck Norris, c'est Broker, Bro Walker, je crois, un truc comme ça. Il y a aussi le mec qui construit tout là, avec des bouts de ficelle.
Bro Giver,
voilà, donc il y a un petit peu toutes les vedettes du cinéma et des séries de ces années-là. Ça marche plutôt bien, c'est un petit peu répétitif forcément parce que c'est du shoot'em up pur, c'est tout en pixel art 2D, voilà, donc c'est un petit peu ce qui était à la mode. Donc c'est un jeu qui est sorti sur PlayStation 4 et PC, et donc ils se sont dit, tiens, c'était à l'époque de Expendables 3, si je dis pas de bêtises, qui est pas le meilleur, c'est pas non plus la meilleure série de films du monde, même si le 1, qui était écrit par Stallone et réalisé par Stallone, il y avait quand même quelque chose de plutôt sympatoche, avec des petites errances de mise en scène, mais c'était un film qui me touchait un petit peu, parce qu'on sentait qu'il y a quelque chose de sincère dedans, ce qui est pas le cas du 2 et du 3, loin de là, c'est plus du truc de fuzzer qui profite un petit peu du succès, parce que Stallone, dès qu'il prend la grosse tête, dès qu'il revient un petit peu sur le devant de la scène, enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça. Mais donc The Expendables, c'est le mélange au moment-là des personnages de Expendables avec le jeu Broforce. Donc c'est plutôt sympathique, voilà, c'était gratuit pendant un moment, ça coûte pas très très cher, donc si vous aimez un peu les run and gun, où on peut tout péter, jouer en coop jusqu'à 4, et ben voilà, profitez de ça, c'est plutôt sympathique. Et donc le thème reprend un mélange de The Expendables justement, qui était une musique pour le cinéma, hein. J'ai plus le nom du compositeur en tête, donc ça sert à absolument rien que je dise ça, mais donc c'était un thème qui était plutôt sympa, c'était pas foufou, et donc là c'est en version métal, ça passe plutôt bien, je trouvais que c'était plutôt bien pour conclure cette émission.
Ouais, absolument. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de tout ce qu'on a entendu? Et ben, entre la paix et la guerre. Et si on choisissait pas? Finalement, il y a des trucs super bien dans les deux. Enfin, en tout cas pour la musique, hein, parce que dans la vraie vie, choisissez la paix, faites pas les cons quand même.
Ouais, mais comment on peut avoir la paix s'il y a pas de guerre?
Oh merde, un sujet de philo pour la conclusion.
Vous avez 2 heures. Allez hop.
Voilà, en tout cas, c'était la fin de notre sélection pour ce 7e épisode de la Beatsbox. Comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, si c'est pas le cas, bah, j'ai envie de dire, gardez-le pour vous, quoi. Mais par contre, si vous avez aimé, n'hésitez pas à faire des tas de commentaires, à nous mettre des pouces en l'air, je sais pas, moi, c'est des étoiles dans iTunes.
Des étoiles. Voilà. Plein d'étoiles.
Voilà, plein d'étoiles. Ça nous fera toujours plaisir et ça nous encourage surtout à continuer.
Alors moi je te vois, celui derrière qui tout le long de l'émission s'est dit « Oh les cons, ils ont même pas mis la save room de Resident Evil », et bah tu peux l'écouter, elle est derrière, ne t'inquiète pas, on a pensé à toi. C'était plutôt sympathique pour nous couvrir la voix sur la fin de l'émission. Donc comme l'a dit mon camarade Rhône, c'était encore une fois un plaisir de vous retrouver, donc votez pour nous, soyez plutôt gentils, partagez la bonne parole. Et en attendant, on se dit à la prochaine pour une nouvelle sélection de musique de jeux vidéo, et on vous fait plein de bisous.
Plein de bisous.
Thank you.